Il ne faut pas jouer avec la cendre, conte d'automne, par Catulle Mendès. Chapitre 1er. C'est au printemps qu'on désire, mais c'est en automne qu'on se souvient. Faites-vous du feu déjà? Non, si vous avez 20 ans. Les jeunes gens s'obstinent à voir des feuilles encore aux arbres dépouillées, et le perpétuel mois de mai qui est en eux supplée au printemps disparu. Quand ils rêvent, ils ont bien tort de rêver, pouvant agir. C'est à l'ombre des grands marronniers aimés de chérubins. Plus tard, on trouve qu'il fait froid sous les branches, quand se lèvent les brumes d'octobre. La somnolence est si douce, le soir, au coin du feu, dans l'intimité de la chambre close, qui tisonne, grisonne. Et c'est dire que Madame Valentine de Terneuse ait atteint l'âge redouté qui fait apparaître dans les chevelures noires les premiers fils d'argent. Point du tout. Elle est à ce moment de la vie où l'on est encore jeune, moment fâcheux d'ailleurs, et comparable à celui où le condamné à mort, à qui l'on vient de faire sa dernière toilette, n'est pas encore guillotiné. Mais elle est jolie, quoique un peu grasse, avec des formes abandonnées. Si elle a refusé ce soir d'aller à la première représentation de la Quenouille de verre, si au bout d'une pincette elle trace, sans y prendre garde, des carrés et des ronds dans la cendre du foyer, ce n'est point qu'elle ait vieilli outre mesure depuis 36 ans qu'elle est au monde. Elle s'est sentie lasse, voilà tout, maussade, nerveuse, comme il vous plaira. L'automne a de ces jours languissants qui enfièvrent mollement et endorment. Elle a dit à son mari, « Vous êtes insupportable. » Elle a congédié sa femme de chambre, avec plus de douceur, et résolue à mourir d'ennui, elle s'est laissée tomber dans un fauteuil profond près de la cheminée avec un petit bâillement. 9 heures viennent de sonner. La lampe, qu'elle a oublié de remonter, va s'éteindre. Le peu de clarté qui rôde sur les plis des rideaux et se mire aux incrustations de nacre d'un chiffonnier Renaissance descend d'une veilleuse allumée dans une sphère de cristal dépoli. Tout est endormi dans la chambre silencieuse à l'exception de la pendule de Saxe qui fait son petit bruit monotone et de Valentine qui rêve, entortillée d'un air boudeur, dans un long peignoir de soie écrue où transparaissent çà et là les blancheurs rosées d'une batiste plus intime. Élevant la jambe droite, elle appuie au velours de la cheminée, entre une coupe d'émail et un vase japonais, la pointe d'une mule de satin noir, d'où se dégage un talon nu, tout rose. Parfois elle remue lentement dans le fauteuil profond avec un joli bruit de soie et de chair froissée, et bâillant encore, elle détend hors des étoffes ses deux bras las et pâles que les manches, en glissant, laissent voir jusqu'à la naissance grasse de l'épaule. Puis sa tête se pose de nouveau sur le dossier bas du fauteuil, parmi les cheveux dénoués, et Valentine rêve encore. À son mari, quelquefois, en passant, comme une abeille ne s'arrête qu'un instant sur une fleur qui donne peu de miel. À son amant, elle n'en a point, et n'en veut point avoir. Ce qui l'occupe, c'est le passé. Il n'y a rien de charmant que ce qui n'est plus. Avant de s'appeler Valentine de Terneuse, elle s'appelait Valentine tout court. Elle a été comédienne avant d'être comtesse. C'est une bien vieille histoire, qui fit du bruit autrefois. Oubliée aujourd'hui. Elle seule y songe par instant. Elle se souvient comme d'un rêve des coulisses noires, des salles éclatantes, des rôles conquis par un sourire, des journalistes qui étaient des imbéciles et de la claque qui avait raison. Elle n'avait jamais eu beaucoup de talent. Elle était demeurée honnête, ou à peu près, de cette honnêteté relative qui suffit pour établir la bonne renommée d'une femme de théâtre. Puis M. de Terneuse était venu et l'avait épousée. Dans tout cela, rien de brillant ni d'excessif. Qu'est-ce donc qui peut attirer et retenir Valentine parmi les choses du passé? Un amour qu'elle a eu. Nous gardons tous, au fond de notre mémoire, un recoin triste et cher, sorte de refuge, qui nous accueille aux heures d'indifférence et d'ennui. Toute âme, si attristée, si déflorée qu'elle soit, est la vestale, inconsciente souvent, d'une flamme qui ne s'éteindra pas. Donc, Valentine a aimé. Il y a longtemps de cela, bien longtemps, 10 ans, 12 ans, 20 ans peut-être. Toute jeune alors et peu célèbre, elle jouait les ingénues au théâtre des Batignolles et les amoureuses dans la vie réelle. Lui, Aurélien, était employé dans une mairie. Il gagnait 100 francs par mois et faillit être destitué parce qu'il écrivait des vaudevilles sur le papier de la municipalité. Aujourd'hui, il est illustre. Il a eu des succès de théâtre et des succès de boudoir. Pour l'amour de lui, une dame polonaise a brûlé la cervelle à son mari dont il était jaloux, et il a fait de cette aventure une comédie qui lui ouvrira avant peu les portes de l'Académie française. Autrefois, Il avait pour souci principal de se faire ouvrir, la nuit, la porte de l'hôtel Garni qui avait l'honneur de loger sa gloire future, encore insolvable, et n'y réussissait pas toujours. Mais qu'ils étaient heureux en ce temps de misère. Ils s'étaient rencontrés dans une petite crèmerie à Montmartre. Ils allaient là, le matin. Elle mangeait une flûte dans une tasse de chocolat, et lui, économie notable due à l'amour, ne mangeait pas, tant il était occupé à considérer la grâce avec laquelle Valentine préparait les mouillettes de pain dur ou soufflait d'un air très grave sur le liquide trop chaud. Le soir, claqueur unique, il allait au théâtre des Batignolles applaudir avec rage celle que, scribe de l'avenir, il considérait comme une Rachel future. Oh, les belles promenades après les représentations, sur les boulevards extérieurs, dans la boue, sous les étoiles, comme ils s'aimaient, comme ils étaient jeunes. La pauvreté même, tenace et cruelle, servit à leur amour. Ils avaient souri ensemble, ils pleuraient ensemble. La chaîne, en devenant plus lourde, devint plus solide. Le malheur rendit sérieux ces cœurs frivoles. Le caprice se fit passion. Une reconnaissance mutuelle des privations subies en commun les attacha profondément l'un à l'autre. Ils étaient tristes, découragés, malades et délicieusement satisfaits. Ils furent, lui pour elle, elle pour lui, ce débris de mât auquel le marin se cramponne dans le naufrage. Puis l'espoir les soutenait. Il ferait un drame pour le théâtre français. Elle serait engagée à la Porte Saint-Martin. Tout allait au plus mal, tout irait pour le mieux. Que de joie d'ailleurs au milieu des tristesses. Le dimanche, quand ils étaient riches, ils allaient au Vésinet. Il y avait alors au Vésinet de jeunes bois touffus, et çà et là des ravins où des chèvres paissaient. Ils dînaient dans une petite auberge au bord d'un champ. Avez-vous remarqué que bien souvent tous les souvenirs de plusieurs années de bonheur ou de souffrance se résument en un seul souvenir heureux ou malheureux ? On est comme un homme qui, après avoir vécu longtemps dans une forêt, ne se rappellerait qu'un seul arbre, qui serait pour lui la forêt tout entière. Une petite chambre au premier étage de l'auberge. L'auberge existe encore, mais les amoureux n'y viennent plus. Était pour Valentine le point unique et précis où confluaient tous ses souvenirs. Pourquoi ? Qu'avait cette chambre de si particulièrement charmant ? N'avait-il été heureux que là ? Elle ne savait, mais elle ne pouvait penser à Aurélien, et elle pensait souvent à lui, sans penser à cette chambre d'abord. Au tableau qu'elle évoquait, il fallait ce cadre. Elle revoyait la porte de bois blanc, sans verrou, chose grave, les murs d'où l'humidité avait détaché de longues bandes de papier peint aux dessins confus, les deux chaises de paille, les carreaux d'étain qui maculaient de rouge le bas de son jupon, et la petite table, et le petit lit aux courtines de calico rose. Tout cela était bien pauvre et bien laid, mais la campagne verte riait au soleil à travers les vitres éclaircies par les dernières giboulées, et l'amour était en fleurs dans leurs jeunes âmes. Dès que la servante était sortie, après avoir reçu la commande d'un modeste repas, ils s'embrassaient avec fureur, lui voulant relever la voilette jalouse, elle résistant pour qu'il fût très amoureux. Ah, la belle, la douce, la bonne petite chambre! Comme Valentine voudrait bien y être encore, et comme il y a longtemps de cela, et comme elle est vieille à présent. Vieille? Non. Elle se soulève sur son fauteuil un peu, se regarde dans le miroir presque sombre et sourit. Certainement, s'il la revoyait, il la reconnaîtrait tout de suite. Elle était assez maigre autrefois, elle a engraissé, voilà tout. Un peu d'embonpoint ne messiait pas, au contraire. Elle serait curieuse d'entendre ce qu'il dirait en voyant sa jambe, qui est bien mieux maintenant. Mais à quoi va-t-elle songer? Il y a tant de longues années qu'ils ne se sont pas rencontrés. Elle vit très retirée, elle s'ennuie horriblement. Il est bien heureux, lui, d'être célèbre et de courir partout. Elle devrait aller au bal, au théâtre. Elle le verrait quelquefois. Y a-t-il toujours beau? Elle jurerait que oui. Allons, dit-elle, ne pensons plus à cela. Monsieur de Terneuse est excellent. Voyez un peu s'il ne faut pas que j'aie perdu la tête pour songer, moi, vieille femme, à mes amours de petite fille. Le revoir, quelle extravagance! Et puis d'ailleurs, c'est impossible. Là-dessus, Madame de Terneuse sourit encore et continue à songer. Impossible, non. Il n'y a rien d'impossible, d'abord. La vérité, c'est que je ne veux pas. Car il ne serait pas difficile de le retrouver. Il doit être à toutes les premières représentations. Quoi de plus simple que de le suivre ou de le faire suivre à la sortie. Mais je ne veux pas. Parce que je suis très attachée à Monsieur de Terneuse. Et je ne voudrais jamais. Quand on s'ennuie, on pense à mille choses. Je suis une honnête femme et je vais me coucher bien tranquillement, comme à l'ordinaire. Je parierais qu'il est au bouffe ce soir. Cela me ferait un singulier effet de le revoir. Il est sans doute avec une femme. C'est cette lampe qui s'est éteinte qui est cause de tout. Il y a des revenants la nuit. Rosette, Rosette, de la lumière, vite! J'ai joliment bien fait de ne pas aller au bouffe. Là-dessus, Madame de Terneuse, tendant le bras, sonne de toutes ses forces. Rosette apparaît, une lampe à la main, et la première chose que Valentine aperçoit, c'est dans la coupe d'émail, le coupon de la loge pour la première représentation de la quenouille de verre. Ah, ma foi, tant pis, Rosette, habille-moi. Dis qu'on attelle. Ma robe mauve, je vais au théâtre. Un quart d'heure plus tard, Madame de Terneuse était blottie au fond de son coupé, étonnée, effarée, heureuse, se pelotonnant de crainte dans sa robe et dans ses bras nus, et, toute troublée par son propre parfum, les yeux mi-clos, elle revoyait là-bas, dans une chambre d'auberge, un petit lit aux courtines de calicot rose. Chapitre deuxième. Il s'était retrouvé. Il était toujours beau. Elle était encore jeune. Elle l'avait fait suivre après le théâtre. Elle lui avait écrit « Si vous reconnaissez mon écriture, venez dimanche là-bas, où l'on s'aimait. » S'il avait reconnu l'écriture, il l'eût reconnue entre mille. Lui aussi, il se rappelait la petite chambre au premier étage de l'auberge, la chambre au papier déteint, au carreau rouge. Il devina que c'était là qu'elle l'attendrait. Rien n'avait changé dans ce nid de leurs amours. Seulement, la servante était devenue très vieille. Avec quel bon appétit, l'appétit de leur jeunesse, ils mangèrent le pain bis et burent le vin bleu. « Comme tu es belle !» lui disait-il, et il ajouta « Tiens, on a mis un verre où ?» Elle rougit et sourit. Tout ce qu'ils avaient fait autrefois, ils le refirent. Ils recommençaient leur vie. Ils auraient voulu être pauvres pour souffrir comme ils avaient souffert. Ils firent semblant de l'être. Ils allèrent dans la petite crèmerie à Montmartre. Elle trempa sa flûte dans la tasse de chocolat et lui ne mangea point, par économie et par amour. Elle lui disait « Est-ce que tu liras bientôt ton drame au comité du Théâtre français ?» Il lui répondait « On m'a promis de te faire débuter à la Porte-Saint-Martin, dans la grande pièce de Ferdinand Duguay. » Ferdinand Duguay était un auteur dramatique mort depuis longtemps, mais qui ressuscitait pour eux en même temps que leur amour. Le soir, ils allaient au Théâtre des Batignolles. Aurélien applaudissait avec rage une Valentine imaginaire, tandis que la vraie Valentine, celle d'autrefois, celle d'aujourd'hui, celle de toujours, se serrait contre lui dans la baignoire. En sortant, elle ne voulait pas prendre de voiture. Elle marchait dans la boue, sous les étoiles. Elle lui demandait « Tu n'as pas payé ton terme, est-ce que tu crois qu'on nous donnera la clé ?» Il revivait. Jamais il n'avait été si tendre, si heureux. Que la vie était belle, qu'ils avaient bien fait de se chercher. Et désormais, leur lien serait indissoluble, et la mort elle-même n'oserait pas les séparer. Un soir que Valentine, tout habillée et assise devant son feu, attendait, pour aller rejoindre son amant, un fiacre qu'elle avait envoyé chercher, Rosette entra et lui remit une lettre d'Aurélien. Elle trembla de joie à la vue de l'écriture. Ah, leur amour, leur jeunesse, ils avaient tout retrouvé, intact et délicieux. Voici ce qu'écrivait Aurélien. « Tu mens et je mens. Nous souffrons à en mourir. Ne viens pas ce soir. Ne viens pas demain. Ne viens jamais plus. » Si tu as quelque pitié pour moi, et quelque pitié pour toi, retourne-t'en dans le passé et reste-y enseveli. Tu es belle, c'est vrai. Je suis jeune, c'est vrai. Nous ne nous aimons pas. Nous sommes des morts qui parodient leur existence ancienne. En buvant l'autre jour au Vésinet le vin de l'auberge, le sourire que j'ai essayé avait commencé par une grimace invisible. Tu avais froid aux pieds l'autre nuit pendant que tu te promenais à mon bras sur le boulevard extérieur. Tu me disais « Comme le ciel est beau ». Mais tu pensais, ne me dis pas non, j'ai entendu la voix qui parlait en toi. Tu pensais, il va pleuvoir. Et tu songes à ton lit, pas au mien. Va-t'en, te dis-je, nous en viendrions à nous haïr. Tu me trouves bête au moment même où tu t'écris, comme il a de l'esprit. Hier, je t'expliquais combien tu as raison de ne pas mettre de parfum à tes cheveux, ni à ta peau, et en même temps, je regrettais le patchouli de ma dernière maîtresse. Finissons cette comédie absurde, nous ne sommes plus... N'essayons pas de nous galvaniser. Le peu de tendresse réelle qui persiste dans nos cœurs est comme ce reste de sève vitale qui fait pousser la barbe et les cheveux des cadavres. Ah, Valentine, rien ne se recommence. Pour l'homme, tout ce qui a eu lieu est fini. On n'a qu'un amour et qu'un printemps, qui ne reviennent jamais. Il n'y a que les lilas qui refleurissent tous les ans. Et sache-le, en cherchant à me revoir, en t'efforçant de ranimer en nous les joies éteintes, tu n'as pas fait seulement une chose inutile et capable de nous faire souffrir dans le présent. Notre malheur actuel a un effet rétroactif et nous avons tué le passé. Voilà ce qui est vraiment horrible et irrémédiable, hélas. Il y a un mois encore, quand j'étais triste, je songeais à toi. Le souvenir de notre amour était mon refuge contre les tracasseries, contre l'ennui, contre le dégoût. Toi que je n'aimais plus, mais que j'avais aimé, tu me consolais. Quand tu souffrais, je te consolais aussi, n'est-ce pas? Nous avions sans cesse en nous quelque chose de pur et de clair, qui suffisait à nous rasséréner, et le passé rayonnait sur l'avenir. À notre âge, on n'a plus d'illusions. Ce sont les souvenirs qui en tiennent lieu. L'éloignement donne à la réalité ancienne assez de charme pour qu'elle ressemble à l'idéal. Jeunes, les rêves nous précèdent, vieux, ils nous suivent. Eh bien, nous avons assassiné notre rêve, qui était notre seule ressource contre les amertumes de chaque jour. Nous avons voulu savoir ce qu'il y avait dedans. Maintenant, le petit chien peut la traîner aux ordures. L'enfant ne veut plus de sa poupée brisée. Comme je me souvenais avec douceur de nos dîners amoureux, le dimanche au Vésinet, toi seul aurais dû entrer dans la petite chambre de l'auberge où je t'avais tant aimé. Une autre femme y est entrée. Cette femme, c'est toi, mais ce n'est pas toi. Je t'ai trahi en essayant de t'aimer encore. On a beau avoir l'air de ne pas changer, on se modifie à chaque heure, à chaque minute. On devient peut-être meilleur qu'on ne l'était, mais on devient différent. Si je ne t'avais pas aimé autrefois, je t'aimerais peut-être aujourd'hui 100 fois plus qu'autrefois. Mais je t'ai adoré tel que tu étais, et tu n'es plus celle que j'adorais. Tu as engraissé, cela te va bien. Je t'aimais maigre. Tu as lu, tu es devenue savante. J'aimais tes lettres sans orthographe. Tu es spirituelle, je t'aimais bête. Et maintenant c'en est fait. Mais nous ne pouvons plus demander au passé les consolations qu'il nous prodiguait. Quelque chose a rompu le charme qui nous liait aux jours évanouis. Entre toi et moi, quelqu'un s'est interposé. Et chose horrible, ce quelqu'un, c'est toi. Quand je songerai à la petite crèmerie de Montmartre, ce n'est pas toi que j'y verrai assise à côté de moi. Ce sera une autre femme, moins aimée et n'aimant pas. Et raffinement de désespoir, cette autre femme, ce sera toi-même. Pour te revoir, il faudra que je te chasse. Nous sommes bien malheureux, car ce que je sens, tu l'éprouves. Toi aussi, tu souffres de notre illusion perdue, de notre idéal avili. Et sais-tu ce qui résultera de ceci? Sais-tu que peut-être nous n'avons pas seulement éteint en nous le souvenir adoré de notre premier amour, mais que nous avons tué aussi la puissance même d'aimer. Ton souvenir pour moi, c'est tout mon cœur. C'est en lui que je puisais la faculté d'être heureux, de sourire et de vivre. Je n'avais pas un bonheur qui ne fût une réminiscence. Je ne me croyais pas mort, me souvenant d'avoir vécu. Quand une femme me disait « je t'aime », j'étais heureux parce qu'elle me rappelait que tu m'avais aimé, et c'est parce que je t'avais aimé que je me sentais la force de l'aimer. Ah, qui donc, à présent, me persuadera que j'existe, quand ce qui me faisait exister n'est plus? Est-il temps encore de rendre au passé le charme qu'il a perdu? Pourrons-nous répudier la mémoire des quelques jours affreux et coupables qui viennent de s'écouler, et l'empêcher d'assombrir à jamais les joies ineffables de notre jeunesse? Tentons-le. Tout vaudra mieux, d'ailleurs, que l'épouvantable comédie que nous jouons. Adieu pour toujours. Fuis-moi, je te fuirai. Et tâchons d'oublier, afin de nous souvenir. Valentine laissa tomber la lettre. Elle resta longtemps comme sans penser. Seulement, du bout de la pincette, elle tourmentait dans la cheminée le feu qui allait mourir. Sous une arche de cendre, il y avait un tison qui brûlait encore. La cendre tomba, et le tison s'éteignit. « Ah ! » dit-elle. Il a raison. En jouant avec la cendre, nous avons éteint le peu de feu qui restait. Ainsi s'achève. Il ne faut pas jouer avec la cendre de Catulle Mendès.